Ethno Vibro. L'effet social total. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 50e émission d'Ethno Vibro, l'effet social total, je vous propose un numéro spécial, comme d'habitude, mais cette fois encore un peu plus spécial, car il sera culturel et militant. Nous partons en Provence, plus précisément à Arles, pour parler culture. Et pour cela, je ne vous emmène pas à l'UMA, je ne vous emmènerai pas non plus au Muséum Art Latin où nous nous sommes déjà rendus ensemble à sa réouverture il y a quelques années. Vous pouvez écouter le numéro 16 de notre Ethno Vibro. Non, nous nous rendons cette fois dans le quartier de la Roquette, dans le café associatif de Langerie, un lieu de moultes activités de quartier, bibliothèque, salle de travail, cantine, cours de français langue étrangère ou de tricot. Aussi, c'est le lieu d'accueil du Politique Social Club, rendez-vous arlésien de la pensée critique et militante qui nous intéresse aujourd'hui, un collectif animé par une quinzaine de bénévoles qui nous ont donc invité avec Ethno Vibro le 18 janvier dernier pour une journée dite décoloniale. C'était au moment de l'annonce d'un cessez-le-feu à Gaza dont nous avons constaté depuis un mois la fragilité. Le collectif Arles pour la Palestine et l'équipe du Politique Social Club recevaient à cette occasion Ouria Boutelja, essayiste et militante du Parti des Indigènes de la République, pour un échange avec elle sous une forme assez originale, comme le fait habituellement le Politique Social Club, c'est-à-dire de mettre l'invité face à des archives audiovisuelles, des lectures et des questions du public pour rentrer dans le débat d'une façon dynamique. Nous avons ensuite prolongé l'après-midi avec une table ronde qui réunissait le collectif Arles pour la Palestine, avec le collectif juif décolonial Tzedek. Cette journée d'échange fut intitulée « La preuve par la Palestine ». Et Swan et Tatiana, membres du Politique Social Club, nous ont accueillis et éclairés dès l'ouverture sur l'origine de ce titre.
Les Arlésiens et les Arlésiennes, ils savent déjà assez bien ça. D'abord, l'atelier Politique Social Club dont on vient de parler, qui existe à Arles pour la 8e saison et qui tâche d'occuper du coup le terrain idéologique et mener un bout de la bataille culturelle depuis le camp de l'émancipation ici à Arles pour comprendre et défaire les ordres de domination sociale, raciale, de genre, de valeur, etc. Cette journée exceptionnelle qu'on en a intitulée « La preuve par la Palestine » est une formule de notre camarade Youssef Boussouma, militant décolonial et infatigable défenseur de la Palestine, et cofondateur du Parti des Indigènes de la République, dont on fête les 20 ans de l'appel hier, mais on va dire aujourd'hui.
On va donc commencer par citer l'article qu'il a publié sur le site du Parti des Indigènes de la République en 2009, où il emploie cette formule. Dans le marasme et la désolation politique de la France de la fin des années 70, puis des années Mitterrand, face à la trahison des uns, au désespoir et au renoncement de beaucoup, face à la répression et aux crimes racistes, pour nous, les rescapés des ghettos de banlieue, la Palestine a été l'exemple d'une magnifique résistance. En effet, un peuple qui depuis plus d'un siècle refusait dans une impressionnante dignité d'abdiquer de ses droits sur sa terre, malgré tous les massacres, toutes les trahisons, le nombre impressionnant de ses ennemis. Évidemment, ça forçait le respect. À un point tel que la lutte palestinienne prenait valeur de thermomètre politique. Ainsi, pour juger d'un groupe politique ou d'un individu, on commençait par lui demander sa position sur le conflit. On disait « faire la preuve par la Palestine ». En un mot pour nous, la Palestine a été une boussole, un révélateur. C'est elle qui nous a offert l'asile politique. C'est sur ces mots que nous ouvrons cette journée.
Je m'en dépasse.
et plus récemment Arles pour la Palestine ont accueilli à Arles de nombreux militants qui luttent ici en France hexagonale contre l'impérialisme occidental et le racisme d'État. Pierre Stamboul, Françoise Vergès, Hamzat Boukari Yabara, Mamadou Diouf, Félix Ewangé-Épée, Stella Magnani Belkacem, Saïd Bouamama, Mathieu Rigouste. Ce travail d'accueil, de porte-voix et de caisse de résonance fait partie de la lutte contre l'ordre colonial des puissances impérialistes de ce monde, dont la France occupe une place majeure encore aujourd'hui. C'est une partie seulement, et il existe plein d'autres formes militantes qui sont à l'œuvre tous les jours et qui passent très souvent sous les radars médiatiques. Ce travail militant pour réhabiliter la vérité de l'histoire coloniale de notre pays et ses effets aujourd'hui même sur les vies des non-blancs en général est plus que précieux. Il est vital si on veut se donner les moyens idéologiques et matériels de faire échouer l'ascension du fascisme à nos portes. Si nous sommes nombreux et nombreux aujourd'hui pour une journée intitulée « La preuve par la Palestine », c'est pour plusieurs raisons et en partie parce qu'on sait l'importance de la pensée critique au service de l'action militante. Ouria Boutelja, que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, incarne cette synthèse entre production intellectuelle et action militante.
Et merci à toi, Ouria, d'être venue. Merci à toi pour l'impact que tu as sur certains d'entre nous. Tu es souvent diabolisée, critiquée. Bien au contraire, tu es une lumière qui éclaire nos luttes contre l'oppression et l'injustice. Tu nous aides à prendre conscience que la Palestine est le miroir des oppressions systémiques que nous vivons ici. Merci à toi, merci pour ton courage, ta clarté qui inspire tant d'entre nous.
Ouria Boutelja a donc déroulé une forme de conférence assez originale en interaction avec les documents présentés par le Politique Social Club. Son argumentaire était tout de même intitulé « Le pari du nous », un front décolonial pour combattre l'islamophobie, l'antisémitisme et le pacte racial à l'heure du génocide en Palestine. Je vous ai sélectionné un petit passage de sa conférence concernant la culture au sens anthropologique, la culture en général, et justement la carence de culture. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'appropriation culturelle, on l'a déjà vu dans une émission précédente avec Harry Gordien notamment. Et là, il s'agit plutôt de l'attraction que les Occidentaux pourraient avoir pour les cultures des autres. Et Ouria Boutelja réagit là à l'interview de Jérémy Piola, autre essayiste décolonial, qui relate un extrait de son livre « Portrait du colonialiste » sur la participation de deux Françaises dans une fête au Mali pratiquant la danse des canards. Et cette scène est perçue par Jérémy Piola comme un témoignage d'un manque profond de culture partageable de la part de ces Françaises qui donc n'ont que ça à mettre dans l'endroit de la fête face à un ballet malien très élaboré collectivement partagé par le groupe qui les accueille pendant leurs vacances. Donc écoutons Ouria Boutelja sur ses rapports entre culture colonisée et carences culturelles occidentales.
Je peux raconter des choses qui m'amènent, moi, à réfléchir dans cette direction. Alors moi, je suis d'origine algérienne. Dans nos quartiers, on a préservé des formes de vie collective qui viennent de nos héritages. Et là où on a grandi en France, moi j'ai grandi en France, quand on faisait des mariages, on était très haut en couleur. On dansait, on apprenait à danser. On faisait des youyou, on chantait, et il y avait des blancs qui étaient perdus chez nous. On les accueillait, évidemment, il n'y a pas de problème. On n'est pas raciste. mais je voyais bien qu'ils étaient perdus. Ils étaient perdus, et en fait, j'ai toujours vu, j'ai toujours ressenti qu'ils nous enviaient, quelque part. Ça, je l'ai toujours ressenti. Et c'était pas rare qu'ils voulaient faire comme nous. Qui voulaient apprendre à être comme nous. Parce que on était encore au stade où on a encore préservé quelque chose de l'autre âme. Voilà. Tandis que eux, c'est ce que je dis dans le livre, ce que je ne dis pas que. Je ne voudrais pas laisser dire qu'il n'y a pas de culture, il n'y a plus rien, que l'univers est blanc est dévasté, c'est pas ça. Mais je parle de manière, disons, tendancielle. Avoir le cadeau de la blanchité a eu pour corollaire de tout abandonner, tout ancrage quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, pour devenir blanc, il a fallu accepter d'être déraciné. et de ne plus avoir de rapport avec la terre, avec l'histoire et avec donc les traditions. Parce qu'à partir du moment où tu te déracines de tout, même de tes traditions. En fait, tu perds tout. Et tu acceptes juste de devenir un blanc. C'est quoi un blanc ? C'est quoi un blanc ? C'est un statut. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce statut ? La fierté de la domination sur les autres, le fait d'être un travailleur exploité et de consommer. C'est ça un blanc. C'est nul. C'est nul. Non mais fondamentalement, c'est nul. Je veux dire, il n'y a pas d'âme là-dedans. D'accord ? Et en fait, quelque part, il faudrait... Et quelque part, nous, on est en train de se blanchir de cette manière-là. Je veux dire, moi-même, je sens mon propre déracinement. Vous voyez bien que je suis blanche. Je veux dire, je suis blanche. Bon. Et je vois bien qu'il faut que j'arrête ce processus. Moi-même. Je dois l'arrêter pour moi-même. Parce que moi-même, je m'éloigne. Je vois bien que je m'éloigne. Je deviens un individu qui est le projet qu'on nous vend comme étant le nec plus ultra. L'individu, ce qu'on reproche. J'ai toujours vu ça dans les sciences sociales. Ce qu'on reproche au monde arabe, c'est de ne pas avoir compris le concept d'individu. C'est ça qu'on nous reproche. C'est ça notre problème à nous dans le monde arabe. Et parce qu'on n'a pas compris le concept d'individu, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y aille. Sauf que moi, quand je sais ce que c'est l'individu, moi quand j'étais ado, comme les blancs étaient plus blancs que nous, parce que nous, dans le processus de blanchité, on était encore des arabes. On était encore... On était mal dégrossis. Donc on était encore communautaires et un peu grégaires. Mais eux, c'était déjà des individus. Mais c'est quoi la conséquence concrète de c'est quoi un individu ? Bah, c'est que quand nous, on était entre nous, c'est un truc très con, mais ça dit beaucoup. C'est que nous, on était partageurs. Quand on mange, on partage. Tout. De moins en moins. Mais je veux dire, attention, de moins en moins. Mais je me souviens qu'on était. Et ceux qui étaient trop avancés dans la blanchité, nos copains du même âge, ils étaient radins. Ils étaient radins. Ils partageaient pas. Parce que eux, ils étaient déjà très avancés dans le processus d'individuation. Et un individu, c'est un individu. Il ne doit ce qu'il est qu'à lui-même. Tout grâce à lui. Or, nous savons qu'on doit tout ce qu'on est à l'histoire et à la communauté. Ça n'existe pas, l'individu. Moi, je ne sais pas où commence et où finit un individu. À quel moment je suis plus issu de l'histoire ou des interactions avec mon environnement ou de ma condition, etc., etc. Donc je ne suis... À quel moment je suis véritablement un individu ? Je ne suis pas en train de nier que l'individu existe, parce que je crois qu'il existe, justement. Je crois qu'il existe. Si quelqu'un me tire un coup de poing, c'est pas toi qui vas avoir mal, c'est moi. Donc j'existe. Mais je n'existe, mais l'individu absolu n'existe pas. Il faut reconnaître l'individu, et il faut reconnaître que c'est toujours un animal social et d'histoire. Donc voilà, c'est ça. Donc le reprocher aux indigènes, donc par exemple, je parle des Maghrébins, c'est ce que je connais le plus, de ne pas connaître l'individu, c'est en plus nous prendre pour des cons. Parce que là, on ne comprend l'individu que par le statut juridique. Mais moi, je m'appelle Ouria, et j'ai ma sœur, elle s'appelle Salima, et j'ai mon frère, il s'appelle Farid. Donc ma mère et mes parents, ils savaient qu'on était trois individus. Non mais c'est aussi con que ça. Et ma mère, elle sait que mon frère, il n'a pas mangé la viande avec des oignons. Et moi, si. Donc elle fait bien le distinguo. On est des individus. C'est-à-dire qu'en fait, la reconnaissance de l'individu, elle est inhérente à toutes les sociétés. Et c'est vraiment nous prendre pour vraiment des cons pour croire qu'on ne sait pas ce que c'est que l'individu. Mais ce qu'on ignore, et là, ils ont raison, c'est l'individu issu de l'histoire du capitalisme. C'est ça qu'on ne sait pas. Et là, je dis, ben heureusement. Heureusement, malheureusement, aujourd'hui, on le connaît. Et malheureusement, les nôtres sont de plus en plus individualistes. Ça, c'est vrai. On le devient. Mais ça, c'est la plus mauvaise nouvelle qui nous est arrivée depuis longtemps. Parce que quand on va complètement se détacher de qui nous sommes, au bout de ça, on ne saura plus danser. Au bout de ça, on ne saura plus danser. Effectivement. Pour l'instant, on sait à peu près. Mais je ne sais pas si ça va durer longtemps. Parce que ça dépend si on est en capacité de préserver nos cultures. Mais ça, avec les attaques libérales sur la communauté, parce que pourquoi ils sont acharnés contre l'islam ? Parce que l'islam est une concurrence directe au projet individualiste capitaliste. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on devienne tous à la fois des individus, mais complètement soumis en tant qu'individus à l'État. Donc, entre les griffes de l'État. Sans maillage social et sans possibilité de résistance. Or, la culture, savoir danser ou n'importe quoi, savoir chanter, c'est toujours l'expérience d'une vie collective. Toujours. C'est pas que les Arabes ou les Noirs ou je sais pas quoi, ou les Africains, ils savent chanter comme ça parce que c'est leur nature de savoir danser et chanter. C'est pas ça qu'on a vu là. C'est des gens qui ont encore une culture. Et c'est encore des, ça veut dire que c'est des gens qui sont ancrés quelque part. Et donc qui tirent leur subsistance d'un vécu collectif. Leur subsistance matérielle d'un vécu collectif, la solidarité, tout ce qu'on... Donc ça, ça crée une culture, et c'est comme ça qu'on apprend, et qu'on apprend, ou qu'on préserve des rapports sociaux, dont la danse, dont la culture, dont les arts. Et ça, on va tous le perdre. Et là, tout ce qu'on est là, voilà. On perd tout ça, on est tous en train de perdre le collectif. C'est pour ça, et donc je reviens à l'islam, parce que là, l'islam est encore... Un lieu où les gens vivent, savent vivre en communauté en France, c'est un lieu de résistance, je le dis, pour tout le monde, ici, encore ici. Il faut préserver l'islam, même pour les intérêts des Blancs. Pour tout le monde, il faut préserver l'islam. Parce que l'islam reste ici, les formes communautaires permises par l'islam, c'est des modèles qui sont encore des modèles de résistance face au rouleau compresseur. Et ça, c'est un modèle, je ne dis pas, je suis en train de dire, devenez musulman. Mais ça peut être bien aussi. Mais ça c'est chacun selon. Mais surtout, le modèle social, communautaire, ça oui, il faut le préserver contre l'État, contre les ambitions individualistes de l'État.
Yeah.
Merci Ouria d'accepter cette petite interview. Bonjour.
Bonjour.
Cette émission parle de sciences humaines particulièrement. Donc voilà, c'était te questionner sur ton rapport aux sciences humaines, en particulier à l'anthropologie, à la sociologie. Je voulais savoir si tu avais eu un parcours de recherche, une relation en tout cas à ces disciplines-là pour élaborer aussi ta pensée militante.
Non, pas du tout. Non, je ne suis pas passée par les sciences humaines. Je n'ai pas fait d'études dans les sciences humaines. En revanche, je pense que je me suis intéressée aux sciences humaines. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il me semble avoir lu de l'anthropologie, de la sociologie. Ça m'intéressait, mais j'en ai pas fait, disons, une discipline personnelle, voilà, de loin. Donc je ne suis pas spécialiste d'aucune question liée aux sciences humaines. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, avec, disons, depuis que je milite, j'aurai un rapport très critique vis-à-vis des sciences humaines. Non pas que ce soit pas utile, au contraire, moi je pense que c'est une base, mais que les sciences humaines sont antipolitiques. Je pense que la plupart du temps, on se satisfait des thèmes, les chercheurs se satisfont des thèmes qu'ils étudient, mais d'une certaine manière, ça les réifie et on ne sait jamais dans quelle mesure c'est utile à la stratégie politique, par exemple. Voilà, on étudie des sujets, mais on n'est pas capable de prendre des positions conjoncturelles. On a un savoir, mais qui souvent ne nous est absolument pas utile, parce qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire, politiquement. Et moi, c'est ce que je reproche le plus aux sciences sociales, à l'université, qui sont, à mon avis, des lieux qui, contrairement à ce qu'on croit, tuent le politique. Moi, j'aimerais, par exemple, qu'à partir des observations sociales, qu'on puisse élaborer des politiques qui, elles, soient utiles pour la lutte et la transformation sociale. Ce qui n'est pas le cas. C'est des cercles dans lesquels on réfléchit en rond. Voilà, on réfléchit en rond. Et voilà, alors, ça ne veut pas dire que le travail qui vient des sciences sociales n'est pas utile, parce que moi, en tant que militante, je peux utiliser des livres de sciences sociales, mais il faut que la militante vienne pour en faire un usage. Mais les chercheurs eux-mêmes, je pense qu'il y a quelque chose qui est problématique dans leur approche des sciences sociales. Je pense que c'est tellement, comment dire, séparé de la chose politique que ça en devient inutile. Il y a un savoir qui n'est pas exploité.
Et donc ça m'amène à la notion de culture, parce que justement c'est l'objet un peu de l'anthropologie culturelle, etc. Cette notion-là qui est souvent réifiée, utilisée et qui est aussi questionnée politiquement sur la culture contre le politique un petit peu. Et pourtant c'est quand même un thème qui est apparu cet après-midi, cette question de la déculturation, de la misère culturelle. Alors comment tu emploies cette notion de culture dans ton travail ?
Alors moi, d'abord, la culture, je suis très attachée à la notion de culture, évidemment, d'autant que moi, je pense en être privée en tant qu'indigène, historiquement. Je pense que l'intégration dans la francité, dans la blanchité, nous prive, efface des cultures et des traditions. Et donc j'ai comme un espèce d'instinct de vouloir préserver ce que j'ai. Et en même temps, je sais que ce qui a été anéanti par l'histoire coloniale ne reviendra pas. C'est-à-dire que je n'ai pas un rapport romantique à la culture, mais je pense qu'il faut réinventer une culture du commun. Et ça, c'est une réinvention, à partir de ce qui nous reste, de ce qu'on a préservé, mais aussi à partir de ce qu'on va réinventer, mais toujours à partir des structures telles qu'on va les transformer. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est les structures matérielles qui produisent de la culture. C'est les conditions de vie qui produisent de la culture. Donc il faut reproduire des conditions de vie communes pour reproduire une culture populaire et commune. Là, pour l'instant, la culture qu'on partage, c'est une culture qui ne vient pas de l'ancrage social, mais qui vient par le haut. C'est une culture, finalement, c'est pas nous qui créons la culture, c'est vrai, elle nous est imposée par des fabricants de culture. Et ça me semble être un problème.
Justement, l'invention de tradition, par exemple, c'est un thème qui a été d'abord abordé par des historiens, puis ensuite constaté par des anthropologues. Et dans le terrain militant, plutôt, on va dire, par exemple, les ZAD ou ces endroits-là, il y a quand même une expérimentation de l'invention de tradition, c'est-à-dire de recréer du maillage par la culture partagée, le chant, la danse, les rituels, etc. Enfin, une sorte de réappropriation, on va dire. Comment tu vois cette imbrication de l'usage de la notion de tradition dans des actions militantes contemporaines?
Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est artificiel. Moi, par exemple, il y a un espèce de folklore que j'aime pas trop. Moi, je pense qu'on ne peut pas inventer la culture de toute pièce. Je pense qu'elle se fait dans le temps long. Par conséquent, parfois, je trouve qu'il y a des formes qui sont un peu ridicules. Je ne donne pas d'exemple précis, mais je vois bien qu'il y a des gens qui ont tellement besoin de culture qu'ils inventent des formes qui sonnent faux, en fait. Parce que je pense que la culture, c'est toujours quelque chose d'historique. C'est quelque chose qui se crée lentement. Donc là, moi, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on est. Et moi, par exemple, je ne vais pas m'inventer. Je suis... comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, j'ai un parcours d'issue d'immigration, mais je suis blanchie globalement, et je vis dans une société individualiste. Hein. Donc, en fait, moi-même, je suis un espèce d'individu, je suis acculturée moi-même, mais je ne vais pas faire semblant d'être une indigène, une arabe, une musulmane, complètement authentique, etc. Je ne serais pas crédible si je faisais ça, et je n'ai pas non plus l'espace social dans lequel je pourrais réinventer cette culture. Hein. Qui disparaît petit à petit, surtout quand on est obligé de sortir de son espace culturel pour aller chercher du travail ailleurs. Donc là, on se réimplante dans des endroits qui sont plus neutres culturellement. Donc pour le coup, je ne vais pas inventer une culture que je n'ai pas, je ne vais pas faire semblant d'habiter une culture. Par contre, j'ai la conviction qu'il faut qu'on recrée des formes culturelles. Mais ça ne se fera pas sans la transformation socio-économique, sans la transformation de l'État capitaliste, etc., etc. Donc il y a un travail politique à faire en amont, qui est la transformation sociale.
Par rapport à la pensée décoloniale dans la culture, on va dire aujourd'hui, toi qui sillonnes un peu tout le territoire, en tout cas de France, comment ça se passe aujourd'hui la pensée décoloniale? Comment elle est reçue? Qu'est-ce que tu vois se transformer justement par rapport à cette pensée?
Alors je pense déjà qu'elle influe sur les analyses de la gauche française. Bon, la gauche radicale et la gauche plus réformiste, mais elle a une véritable existence et elle est vraiment influente. Je le constate et je trouve que c'est bien parce que c'est ce qui va permettre de mieux, disons, appréhender et concevoir les types d'alliances qu'il faut qu'on mette en place pour résorber ou, affaiblir la division raciale. Ça ne veut pas dire que c'est la seule division qu'il faut combattre, parce qu'il y en a d'autres. Moi, je suis sur celle-ci, mais évidemment, la modernité occidentale a aussi rigidifié les rapports de genre, par exemple. Là aussi, il y a un travail à faire là-dessus, par exemple.
La décolonisation n'est pas une métaphore, mais cette expression « décoloniser les imaginaires », qui vient quand même de la créolisation, etc. Qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui de cette idée de soft power, on va dire culturelle, de la pensée décoloniale aujourd'hui dans les imaginaires en France? Donc, c'est-à-dire d'une manière plus diffuse, plus pas seulement dans le cadre de l'action militante, mais qu'est-ce que tu peux constater aujourd'hui de ça?
Il y a du bien et du bon et du mauvais. À partir du moment où une idée s'impose, elle est récupérée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'impose déjà. Donc ça, c'est déjà bien de constater qu'elle s'impose. Et elle ne serait pas récupérée si elle n'avait pas déjà infusé. Ça, c'est une chose. Maintenant, notre travail de militant, c'est de faire en sorte qu'elle soit le moins récupérée possible et qu'elle soit le plus au service de la lutte politique. Mais ça, c'est un combat. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas simplement de constater qu'elle est récupérée, parce que de toute façon, elle sera récupérée. Les forces qui sont en face de nous sont plus importantes que les nôtres. Donc, elles ont une capacité à tout recycler de manière, avec une extrême facilité. Mais ça, c'est leur travail. Et de leur point de vue, ils ont raison. Ils mènent leur combat de l'autre côté. Donc nous, comment on résiste? En élargissant notre base sociale. En convainquant le maximum de gens de rejoindre et de massifier la lutte.
Est-ce que tu aurais un conseil pour être irrécupérable?
Pour être irrécupérable, il faut être fort. Il faut créer un rapport de force favorable. C'est tout. Il faut être donc il faut renforcer notre camp. Et ça, c'est je sais ce qu'il faut faire. Comment arriver à renforcer notre camp? Il faut massifier. Pour massifier, il faut faire un travail politique. Ça veut dire qu'il faut des militants. Il faut du monde. Il faut convaincre. Mais il n'y a pas de formule magique. Un rapport de force, ça se construit. L'AFI a construit son rapport de force. Il y a 15 ans, il n'existait pas. Aujourd'hui, il existe, mais c'est un travail de militant.
Allez, une petite dernière pour la route. Le Politique Social Club, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu découvres ici? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te saute aux yeux?
De la chaleur humaine. Il y a de la chaleur humaine et ça se voit qu'il y a de la, il y a des ondes positives au sens où on sent de la fraternité, on sent une compréhension aussi. Moi, partout où je vais de plus en plus, autant il y a 15-20 ans, on a fêté donc les 20 ans de l'anniversaire des indigènes, c'était impossible de parler à un auditoire sans que celui-ci réagisse négativement. Mais là, c'est plus le cas, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, on a là, par exemple, voilà, comment on crée du rapport de force ? On a créé du rapport de force, mais il a fallu 20 ans. Donc il faut du temps.
Merci Auria.
Merci.
Baby didn't fall, baby didn't fall from a tree. Baby didn't fall, baby didn't fall from a tree.
C'est Jessila Régade, j'habite à Arles. Je suis née en France de parents originaires d'Algérie. Je suis engagée dans le collectif Arles pour la Palestine et c'est vrai que je fréquente beaucoup l'Angerie ou le Politic Social Club.
Qu'est-ce que c'est le Politic Social Club pour toi ?
Le Politic Social Club, c'est un endroit sur lequel on peut se questionner, questionner le système dans lequel on est et avoir un horizon où en fait on peut parler de diverses questions qui ne sont pas autorisées par la pensée dominante, comme dirait Ouria Boutelja. Et donc en fait c'est un endroit où on trouve sa force, parce que militer c'est bien, mais on milite pas seul, on milite avec des gens et c'est l'endroit où on rencontre des gens dans lesquels on fait un projet d'essayer de changer la perception dans laquelle on est, la perception du monde, au travers des oppressions qu'on subit tous différemment, une oppression en rapport d'une religion, une oppression en rapport de sa sexualité. Donc c'est aussi une bouffée d'oxygène dans le marasme des idées d'extrême droite, de se retrouver avec des gens de diverses... T'es arrêté.
Il encourage, alors on est devant l'Angerie et Jessila est encouragée par ses camarades.
Je n'ai aucune légitimité, je ne sais même pas pourquoi ce micro m'est tendu, mais je réponds. Et pas d'être aussi dans cette impuissance, c'est ça aussi le problème et le fléau, c'est que parfois on se dit qu'on ne peut rien faire et on est dans l'acceptation de notre condition sans se rendre compte que c'est cette acceptation-là qui renforce le système tel qu'il est. Et qu'au contraire, le pouvoir nous craint. Et donc ce lieu-là, moi je dirais que c'est un lieu qui apporte beaucoup au combat qu'on mène et notamment pour le combat pour la Palestine. Forcément, comment imaginer ou penser politiquement ? Ça y est, que si on veut exister, il faut exister politiquement. C'est fondamental pour ne pas être simplement dans des revendications, dans la protestation des injustices que l'on subit, mais de prendre parti également aux décisions. Cette journée-là, c'est aussi de pouvoir rencontrer la militante décoloniale par excellence et de se former, parce qu'aussi c'est essentiel. Parfois on réagit sous le coup des émotions, des souffrances qu'on a endurées, des discriminations qu'on subit, des images d'horreur qu'on voit dans le conflit actuel avec la Palestine. Et c'est aussi bien de comprendre, de replacer dans le contexte aussi géopolitique pour mieux savoir aussi contre qui on se bat. Et quand on sait contre qui on se bat, on se rend compte que c'est compliqué. Mais on sait aussi quels outils on doit utiliser pour le faire et mener le combat. Voilà, je répète, je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire ça.
Mais c'est super. Ah ouais, t'es légitime à fond. Donc tu t'es entraînée, c'est parfait.
Je sais pas si je suis légitime. Je tiens à préciser, j'ai une table ronde.
Oui, ça va être génial.
Et je suis stressée à mort.
Non, allez, ça va être super.
Merci. Merci à toi.
Jessila rejoint effectivement la scène sur laquelle l'attendent ses collègues de Arles pour la Palestine, ainsi que deux membres du collectif juif décolonial, Tzedek, que j'ai eu la chance également d'interviewer, toujours à l'Angerie, le 18 février.
Moi, c'est Nathan Chaim Deicher.
Moi, c'est Adam Mittelberg.
On est membre et militant du collectif juif décolonial TZEDEC, qui se résume par sa lutte contre le racisme d'État en France et contre les politiques et le régime d'apartheid en Israël-Palestine. On s'est créé il y a à peu près un an, un peu plus maintenant, par souci à la fois d'agir politiquement en tant que collectif juif, d'être une voix juive dans la composante antiraciste en France, aux côtés de nos camarades qui luttent contre l'antiziganisme, qui luttent contre la négrophobie, qui luttent contre l'islamophobie, et aussi pour être un foyer de reconstruction communautaire et religieuse juive face à l'immense imprégnation des idées et de la propagande sioniste dans les communautés juives en France. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de juifs et de juives qui suffoquent d'entendre dans leur famille, dans leur lieu de culte, sans cesse rabâcher une lecture qui associe le judaïsme au sionisme et qui fait l'apologie de l'État d'Israël et de ses crimes, en particulier dans une phase aussi tragique que celle qu'on connaît depuis le 7 octobre, mais déjà avant. Et donc on a pensé que ça semblait, pour faire de la politique, mais aussi pour se reconstruire en tant que juif et pour continuer la tradition et la transmission dans laquelle on s'inscrit, c'était salutaire. Et on essaie de mener ça en France, dans plusieurs villes, Marseille, Grenoble, Lille, Paris évidemment. Voilà.
Et comment cette parole circule? Comment elle est accueillie? Comment elle est des fois aussi empêchée aujourd'hui en France?
Déjà, elle circule entre nous. Enfin, on essaye. ça dépend. En fait, tout dépend des milieux. Il y a plusieurs points de réponse. Dans le premier point, il y a quand même le milieu décolonial, le milieu antiraciste, dans lequel, bien entendu, on est accueilli comme tout militant antiraciste. Donc, c'est par rapport à nos propres actions. Ou en tout cas, cette parole-là de se réintégrer dans nos propres traditions, de se réintégrer dans nos propres identités, en fait, de reprendre en main notre histoire, un petit peu, ou notre culture. Bien sûr qu'elle est accueillie à bras ouverts, parce que, en fait, on a tous ce même travail décolonial, on a tous ce même travail de non pas fantasmer nos identités passées et rester entre nous, entre guillemets, mais justement travailler déjà dans nos propres communautés et avec les autres mouvements antiracistes à essayer de recréer des espaces simplement de vie culturelle pour créer nos histoires. Ensuite, le deuxième point de la réponse, ça serait dans nos communautés, entre guillemets, où là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, notamment parce qu'on a des prises de position qui ne sont pas en lien, en tout cas, avec ce que le gouvernement français, mais aussi, en fait, la modernité occidentale nous offre. On déconstruit notre rapport à Israël, on déconstruit, en fait, la proposition occidentale et coloniale de devenir blanc dans une oppression. Et en ça, on n'est pas accueilli en fait, dans nos communautés. Oui, on peut dire qu'on est poussé vers la sortie, on est viré de nos communautés parce que le lien aujourd'hui communautaire, en tout cas en France, juif, c'est Israël. C'est la position de suprématie qui fait le vrai lien en fait, de la plupart des communautés. Et en tout cas, de manière officielle, c'est ce qui fait presque être juif français aujourd'hui, malheureusement. Et en tout cas, c'est dans cette position, enfin, en tout cas, nous, c'est notre constat. Et c'est un constat qu'on veut critiquer, c'est un constat qu'on veut combattre. Parce que cette proposition nous enlève de notre propre histoire, nous enlève de nos propres traditions, nous enlève en fait vraiment de notre travail culturel pour devenir simplement des spectateurs de ce que la blanchité nous donne, ce qui veut dire être colon comme voilà.
Et donc là, on a entendu Ouria Boutedja toute l'après-midi balayer un peu plusieurs points de sa pensée et de son œuvre politique. Comment vous reconnaissez dans cette pensée décoloniale ?
Alors c'est vrai que l'œuvre de Ouria Boutedja, c'est un élément assez important pour beaucoup d'entre nous. Il y a pas mal de personnes à TZEDEC, militants, militantes, qui se sont reconnues dans le chapitre sur les Juifs de son premier livre qui s'intitule « Les Blancs, les Juifs et nous », où elle propose une politique de l'amour révolutionnaire, c'est-à-dire de la réconciliation, mais du dépassement de la race comme mécanisme de domination et d'oppression. Et elle décortique le rôle que, après la Seconde Guerre mondiale, avec tous les enjeux mémoriaux, etc., que ça charrie, les Juifs ont été amenés à jouer en Occident. Et le rôle qu'ils jouent dans le dispositif de pouvoir qu'elle appelle pacte racial, où en effet, les Juifs, de la part des classes dominantes, des gouvernements, sont acceptés à condition d'avoir un pied en Israël et un pied dans leur pays, et d'être sans cesse assimilé en fait à des sionistes, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont pas vocation à vivre là où ils vivent. Et ça, c'est un trait typique de l'histoire du sionisme, c'est qu'il a une affinité élective avec les politiques antisémites. Et d'ailleurs, Théodore Herzl le dit dès le début, c'est-à-dire les antisémites seront nos meilleurs amis, tout simplement parce que les antisémites veulent sortir tous les juifs des pays où ils vivent, et les sionistes veulent tous les amener dans un lieu qui s'appelle la Palestine, qui est habité, qui a une culture, et qu'ils vont coloniser. Et donc, évidemment, tout ça va donner un savant mélange où, après la guerre, pour s'absoudre des massacres commis par l'Europe ultra-antisémite, les juifs vont être réhabilités ou acceptés à condition d'avoir un pied en Israël et un pied en Occident, et de se faire les colons et les porte-voix de la modernité occidentale et de son colonialisme en Palestine, et de jouer le rôle de gendarme occidental dans une région à haute valeur stratégique pour ses ressources, pour son pétrole. Et nous, on refuse ça, on refuse ce rôle que l'histoire occidentale, moderne, coloniale, nous amène à jouer dans cette configuration historique. On veut désamorcer tout ça en luttant aux côtés des autres minorités opprimées. On n'a pas oublié qui a tué nos grands-parents, qui les a déportés, qui les a massivement gazés, qui les a exterminés. Et on entend lutter aux côtés de celles et ceux que l'État, aujourd'hui, opprime au premier chef, les descendants de l'immigration postcoloniale, les musulmans, les Roms, et bien d'autres encore.
Tu disais tout à l'heure retrouver, se réapproprier quelque part nos traditions, notre identité. Comment, de quoi il s'agit exactement dans Ethnovibro, on est très intéressé par les définitions de la culture, de comment on travaille la culture, de comment on se la réapproprie, de comment on la transforme.
Ça dépend. Déjà, un premier point, c'est de voir qu'est-ce qu'on nous a enlevé, qu'est-ce qu'on nous a interdit de faire. Qu'est-ce que, en fait, le projet sioniste et donc en ça la proposition blanche de nous faire en tant que spectateurs de nos propres cultures nous a donné, c'est d'enlever énormément de liens religieux et surtout de liens de création dans nos propres traditions. En gros, la proposition sioniste, c'est quand même de, je sais pas si déreligiosiser le judaïsme est un petit peu le terme, mais en tout cas de donner une identité normalisée qui en fait qui ne se crée plus et qui se fait simplement par descendance, où on est juif ou on ne le naît pas, avec N-A-I-T, pardon. Et nous, en fait, ce qu'on fait, même un petit peu là de manière assez matérielle, c'est se repositionner par rapport aux traditions qui nous ont été léguées, donc que ce soit nos textes, que ce soit nos histoires, que ce soit nos légendes, nos mythes, pour qu'on puisse les amener tant à nous-mêmes, donc pour qu'elles puissent pas nous métamorphoser, mais pour qu'on puisse se construire avec elles, et ensuite pour que nous-mêmes on puisse y intervenir dans les constructions qui viendront de manière future, en fait, pour qu'on puisse participer simplement à notre histoire. Donc de manière factuelle, on se remet à étudier nos textes, que ce soit la Bible, que ce soit le Talmud, que ce soit différents traités, que ce soit différents rabbins. On se remet simplement à étudier notre propre histoire, donc avec les histoires familiales qui sont au-delà, en fait, de la simple légitimation du projet sioniste, parce que le projet sioniste se passe quand même sur une légitimation d'une histoire passée, mais assez courte, qui est en fait celle de la Shoah ou celle de la victimisation, mais qui ne voit l'histoire que par rapport, en fait, à sa propension à légitimer le projet colonial, alors que nous, on la voit surtout, en fait, pour nous changer, nous, aujourd'hui, pour nous donner un indicateur identitaire, culturel, pour qu'on puisse, bon, ça c'est, on verra ça plus tard, réapprendre le yiddish, réapprendre le ladino. On remarque quand même que Israël a détruit énormément de la culture juive elle-même. Elle a blanchisé tous les séfarades, tous les mizrahi. Donc elle a détruit le judaïsme iranien, des judaïsmes dont on n'a même jamais entendu parler, que ce soit le judaïsme des Bukhari en Ouzbékistan, que ce soit le judaïsme éthiopien, que ce soit même certains judaïsmes, entre guillemets, ce qu'on appelle un peu perdu, mais du Congo et du Nigeria. Et on se retrouve, en fait, avec un judaïsme qui est totalement blanchisé, où on doit suivre une seule ligne et où, en fait, la potentialité de création est interdite parce qu'elle doit se faire dans une seule identité nationale, qui est en fait le projet colonial, que chaque État-nation doit avoir une seule identité homogène pour pouvoir contrôler sa population.
Le Politique Social Club, pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment vous le rencontrez? Qu'est-ce que vous voyez là en arrivant?
Nous, on a déjà été invités à Arles, donc par Swan et Tatiana. C'est entouré de plein de mouvements militants qui ont l'air, en tout cas, tous super chouettes. humainement parlant, parce que nous, c'est comme ça qu'on les rencontre.
Vous n'êtes pas d'Arles ?
Non, on est de Marseille, et du coup, moi, en assistant à cette, je ne sais pas comment il faut appeler ça, cette intervention de Auréa Boutelja et à la façon dont elle a magnifiquement été mise en forme et préparée par Swan et Tatiana. C'est des moments de formation très importants et de discussion et de déverrouillage en fait, de pas mal de plis et d'injonctions et de brouillage médiatique sur certaines questions, sur des questions très importantes sur l'histoire du judaïsme, du sionisme, du racisme, de l'entremêlement de tout ça. Et là, dans la façon dont ça a été apporté au public, ça permet vraiment d'y voir plus clair et on se sent grandi. Et puis quand on est formé, on agit mieux. Et du coup, ça renforce en fait les cadres militants. Et je pense vraiment, moi, ça me donne envie de faire ça, par exemple, à Marseille.
Merci beaucoup à vous deux. Merci.
Merci beaucoup.
L'espoir, c'est comme la base. Il attaque, fait poum poum tchac tchac. Brûle le vice et la crasse. Change le monde et surtout la face. Mes pensées sont belles, mais sont pas toutes douces. J'ai des rêves, j'ai pas des gourous. J'fais des roumous pour que l'Empire se retrouve sous loup. On va changer les fiches, on va manger les riches. Ils diront qu'ils sont foutus, on dira qu'ils sont goûtus. Ils veulent des bunkers et des niches. Ils se protègent les miches. On va mettre les empires tout nus pour pas que les empires nous tuent. Le capitalisme n'est pas irremplaçable. Racisme n'est pas irremplaçable. L'exploitation des peuples n'est pas irremplaçable. Si un autre monde est impossible pour votre mental frère, c'est que l'aliénation a fait son taf et que votre mental perd. On vous laisse les émojis, on prend les références, les armes, la théorie. Obi-Wan Kenobi, si t'as pas de projet de société, d'humanité, viens pas nous affronter, te la raconter.
Ouais, t'as rien à raconter.
L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force à nos victoires. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force, force, force. La colère sur la table comme un foulec. Votre calme sert de cache-misère, de fausse maturité poubelle. Ça en a tout l'air, je vois la lumière au bout. Laissez-moi faire beaucoup, j'ai la veine dans le cou. Vegeta Son Goku, destin anormal. On se sent mal, ambiance bancale. Les petits on leur parle de fin du monde et d'angoisse. Que des remparts, ça rend compulsif rentable. Le désespoir est capitaliste et occidental. Que des films et séries sans idéal. Pensé par des grosses productions sans idéal. D'un cinéma sans idéal. Vous savez pas qui fait. Vos concepts sont déprimés, fin d'humanité. Les petits vont tout recalibrer. L'heure n'est pas au constat, l'heure est aux portes de sortie. Sans projet, on est des âmes et des corps vides. De la chair morbide. Point levé sert à rien sans message assorti. Vous éjectez du cockpit, mettre nos rêves sur orbite. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force à nos victoires. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force, force, force.
Je suis avec Louisa et Marie du Politique Social Club, salut. Merci de m'accorder ce moment et surtout bravo pour tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient ce Politique Social Club, comment il a été créé et de quelle façon ?
Le Politique Social Club, il est né dans un autre lieu associatif à l'époque qui n'existe plus. Et il est né comme un atelier d'autodéfense critique, avec surtout la volonté de parler de politique. Et de parler de politique à plusieurs, et d'une manière où tout le monde se sente autorisé à prendre la parole, etc. Et le principe depuis le début, même si ça prend plusieurs formes, ça a été d'avoir un premier temps où on a soit une vidéo, soit un entretien, soit une vraie personne qui est là devant nous, mais d'avoir le même socle et d'en débattre après, et d'échanger là-dessus, mais d'avoir ça en commun. On vient avec des références différentes, avec une culture différente, avec un vocabulaire différent, mais l'idée c'est qu'on puisse avoir une base commune qui sert de point de départ à l'échange. Un autre des principes de base, c'était l'idée de pas forcer. Alors maintenant il y a des exceptions, il y a des aménagements, il y a des adaptations, mais à la base c'était de partir du propos d'une personne, de la recherche d'une personne, alors qui peut être militant, militante, philosophe, chercheur, chercheuse en sociologie, anthropologie, histoire, etc.
Alors justement, je voulais vous demander, pour les auditeuristes de Ethnovibro, quel est votre lien avec les sciences humaines, notamment la sociologie, l'anthropologie. Est-ce que c'est quand même des disciplines que vous sortez régulièrement du chapeau au Politique Social Club ? Est-ce qu'elles sont politiques selon vous ou pas assez ?
Nous-mêmes qui animons le collectif, l'idée c'est qu'on a tous et toutes des identités différentes et qu'on n'est pas spécialement versé, en tout cas professionnellement, dans les sciences humaines. Donc nous, on n'est pas des spécialistes. On s'intéresse à la chose publique, on s'intéresse à différents domaines de recherche, mais aussi, je crois, ce qu'on a envie de faire passer en vérité, c'est des opinions, c'est des points de vue sur les choses. À titre personnel, en tout cas, parce que je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je crois que le domaine d'où elles émergent, il est peut-être pas toujours si fondamental. Disons, c'est un angle de vue sur le monde. Il est informé d'une discipline, mais que nous, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, c'est aussi une délégation de confiance. Et parfois, aussi, il y a des chercheurs, chercheuses, en tout cas, on met l'accent sur une personnalité dont le travail nous intéresse, mais pour autant, on n'adhère pas individuellement à tout ce qui en émane. Oui, il y a beaucoup de sociologues quand même. Je réfléchis, en vrai, en anthropologie, je ne suis pas sûre qu'on ait fait des PSC sur des anthropologues, en vérité.
Oui, c'est sûr que ça vient de plein de disciplines différentes qui partent aussi des lectures que nous, on a. Et c'est sûr que du coup, le collectif à la base, qui est quand même un collectif affinitaire et qui fonctionne un peu par cooptation, fait que les références, elles se recoupent. Alors évidemment, du coup, ça fait émerger différentes sensibilités en fonction de ce que les gens lisent pendant l'été, sur leur temps libre et tout ça, et les sujets auxquels ils s'intéressent. Et selon les gens qui sont dans le collectif, le Politics Social Club peut prendre des couleurs très différentes, même si on essaye de se tenir au format un peu original, qui est du coup, à la base, pas d'intervenants en présence, des vidéos, des montages vidéo et audio, et une heure de visionnage et une heure de discussion, quoi.
Le format est original, mais aussi la proposition en elle-même, c'est-à-dire que finalement, ça répond à un besoin de créer, fabriquer de la pensée politique, s'entraîner quelque part, s'armer, s'outiller dans la pensée politique. Finalement, il n'y a pas vraiment d'endroit qui existe.
Au moment où le Politics Social Club est apparu dans ce lieu associatif Feu l'O17 qui n'existe plus, il n'y avait rien de ce genre. Ce qu'on assume aussi, c'est de s'inscrire dans des lieux indépendants, autonomes, et d'avoir une subjectivité qui fait que c'est le collectif qui définit un peu la ligne éditoriale, même si on ne s'exprime pas comme ça entre nous, et même si on n'a pas des visées toujours hyper claires et qu'on fait les choses un peu pragmatiquement au fur et à mesure, on assume que ce soit subjectif et que ça nous ressemble, quoi.
Et c'est aussi parce qu'il y a d'autres événements de ce type invités débats qui se font à Arles par des associations qui sont plus instituées que la nôtre, comme, enfin, que nous d'ailleurs, qui ne sommes pas une association, mais par exemple la Ligue des droits de l'homme fait régulièrement ce genre de choses, d'inviter quelqu'un à venir parler, mais du coup c'est dans un contexte où c'est des paroles qui sont légitimées par le fait que la LDH est une association nationale et tout ça. Et nous, il y a aussi un enjeu, j'ai l'impression, à mettre sur le devant de la scène des paroles qui sont ou bien controversées, comme par exemple celle d'Ouria Boutelja, ou bien pas trop présentes dans le contexte arlésien, et surtout dans des lieux qui sont du coup autonomes, collectifs, gérés collectivement, et qui sont pas... parce que à Arles, il y a aussi une privatisation de tous les espaces qui fait qu'il y a peu d'espaces auxquels on a accès dans lesquels se retrouver les collectifs politiques qui portent des couleurs politiques un peu radicales ou en tout cas un peu identifiées ont du mal aussi à trouver des espaces dans lesquels se retrouver. Du coup, l'Angerie dans lequel on fait le Politics Social Club est un lieu qui accueille ces propositions-là aussi pour leur radicalité et aussi pour la couleur qu'elles ont justement de sortir un peu d'une ligne qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. Et le but, c'est aussi qu'on a un espèce d'autocontrôle entre nous dans le collectif sur qui on invite, qui vient. Mais en même temps, il y a aussi une espèce de liberté de programmation qui fait qu'on a pu aussi se tromper, faire venir des trucs où finalement, dans la discussion à la suite des vidéos et tout ça, on se dit finalement, peut-être que ça convainc pas forcément, peut-être qu'il y a plein de choses à en redire, mais du coup, ça permet quand même des espaces de discussion sur des sujets qui ne sont pas forcément consensuels. On ne sait pas forcément ce que ça va donner dans la discussion ensuite. Ou en tout cas, le but, c'est que ce soit justement qu'il y ait différentes voies qui soient possibles, quoi.
Dans le deuxième temps, qui est le temps d'échange sur ce qu'on a vu dans la première heure, en tout cas dans la forme classique du Politics Social Club, on essaye de mettre en œuvre ou de se réapproprier des dispositifs qu'on n'a pas du tout inventés, mais qui sont plutôt issus de l'éducation populaire. Et aussi de privilégier le témoignage. Au départ, on était très... franchement, je pense que c'est une des évolutions du Politics Social Club, c'est-à-dire qu'au départ, on était un peu jargonnant nous-mêmes, parce qu'en fait, quand tu prends la parole, tu cherches à un peu donner tes rêves, donner ton bagage. Et en fait, on s'est aperçu en cours de route que parfois, les témoignages, l'expression des vécus par rapport au sujet, ils étaient... pas plus intéressants, mais en tout cas, ils éclairaient aussi la théorie qui est un peu la première partie. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on essaye aussi de susciter, d'ancrer le propos, d'avoir cette figure de savoir souvent universitaire, pas toujours, mais en tout cas froid théorique, de l'incarner directement, de trouver des angles et des questions et des dispositifs d'expression qui vont permettre d'ancrer la question qui est abordée et de lui trouver des résonances locales concrètes.
Des fois, ça, l'idée, c'est aussi que ça débouche parfois sur des vraies actions ou en tout cas la vraie formation de... Bon, c'est un truc qui est un peu à l'épreuve dans le Political Club depuis longtemps. On se demande comment ces discussions peuvent ensuite aboutir à quelque chose et pas juste faire des discussions hyper badantes parce que globalement, les sujets qu'on traite, ils sont pas marrants et du coup, à la fin, on est un peu déprimé. Et il y a quand même... ça fait pas tout le temps des étincelles, mais il y a quand même eu certains sujets qui ont créé ensuite, qui ont eu un peu des répercussions. Il y a une chorale militante qui s'est montée à Arles un peu à la suite d'un PSC avec des gens qui venaient au PSC. Il y a les sujets aussi sur le fichage avait fait qu'il y avait un groupe qui s'était organisé pour ensuite faire des réclamations auprès de je sais absolument plus quel organisme pour vérifier qui était fiché. Enfin, en fait, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend au fur et à mesure et qui font que ça nous outille aussi pour agir et pour porter des actions. Et ça, c'est un peu un but aussi qu'on se donne, ou qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'on essaye de travailler comment on fait pour ensuite traduire toute cette théorie en action, quoi.
Ce que permet aussi ce genre de journée comme aujourd'hui, c'est-à-dire aussi de faire des ponts avec d'autres collectifs qui, eux, sont plus dans la militance au sens strict ou en tout cas dans des actions.
En tout cas, là, c'est plutôt une réussite, je pense. Moi, ça fait deux fois que je viens et à chaque fois, il y a du monde, c'est très vivant, des gens très différents. Il y a de quoi lire, de quoi boire, de quoi manger, de quoi danser, de quoi réfléchir. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça représente, là, cette journée ? C'était quoi l'enjeu principal ?
L'enjeu d'avoir Ouria Boutelja à Arles, c'est que quand même, ça fait, je crois, c'est depuis le début du Political Social Club, quasiment tous ses ouvrages ont fait l'objet d'un PSC. Et que pour beaucoup de membres du collectif, c'est quand même une figure un peu tutélaire dans la façon dont on pense la politique, l'antiracisme, la lutte décoloniale. Et du coup, ça faisait sens d'organiser autour de sa venue quelque chose de plus conséquent que d'habitude, parce que d'habitude, c'est plutôt un jeudi soir et ça dure 2-3 heures. Et voilà, et après, et c'est pas forcément plus. Et là, ça faisait sens d'organiser autour de sa venue d'autres ponts avec des collectifs arlésiens qui sont aussi sur des luttes décoloniales, avec lesquels on a déjà fait des ponts, qui du coup ont aussi une autre... ça réunit un peu plein de militants ensemble et qui s'organisent, et ça fait un truc pour essayer d'organiser des choses assez joyeuses. Et aussi parce que Ouria, c'est quand même une figure, notamment dans ces collectifs-là, et on savait que en organisant quelque chose d'un peu plus large, on pourrait aussi toucher un peu plus largement jusqu'à Marseille, Avignon, etc. Et voilà, après, c'est... il y avait quand même 125 personnes apparemment tout à l'heure. Ce qui est une première, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde.
C'était votre VIP de l'année, c'est ça ?
Clairement, oui, même depuis un certain nombre d'années. C'était la star américaine, oui, décoloniale.
Bravo pour tout ça, en tout cas, et pour le courage, l'énergie et la joie aussi.
Et surtout, ce soir, on va danser et on va faire la fête. Et j'espère qu'il y aura aussi du monde, parce que ce serait bien aussi qu'il y ait du monde qui vienne un peu sur un malentendu. Ce serait cool, j'espère qu'il va y avoir du monde.
Et on m'a glissé un mot tout à l'heure. Et depuis peu, le Politique Social Club a un Instagram, si vous voulez suivre l'actualité du Politique Social Club, ce qui n'était pas le cas avant. Et l'Instagram, c'est... @politiquesocialclub. Et voilà, vous pouvez vous abonner, c'est super. Il y a tous les programmes depuis le début des premières éditions du Politique Social Club dessus.
Politique Social Club à Arles, merci. Merci à tous les membres du Politique Social Club de Arles pour la Palestine de Tzedek. Merci à Ouria Boutelja. Pour la musique, c'était Def Mama Def, remixé par King Doudou, Babel Blues, Cookie, Zayn, Rosé,
et Poplité. Avant d'être mise en ligne sur le site de Radio Escapade ou sur l'audioblog Ethnovibro, cette émission sera rediffusée vendredi prochain, le 14 février à 9h30. Et ce même jour, le vendredi 14 février à 18h30, je vous donne rendez-vous à la librairie La Bestiole de Viollefort pour vous présenter, aux côtés de l'éditrice Isabelle Cambourakis et de l'illustre illustratrice Annette, le livre Carnaval Toi, petit guide d'émancipation féministe et carnavalesque, écrit par les reines Pédoc. Cette même présentation aura lieu le vendredi 21 février à La Tendresse à Montpellier. Elle sera augmentée d'une rencontre avec des participants du Carnaval des Gueux de Montpellier, augmentée également de l'installation sonore Le Chant des Masques sur le Carnaval dans l'espace public, créée avec mes camarades Cécile Février et Péroline Barbet, et augmentée également du spectacle Carnaval de Marie Coum et Paulin Courcial, sur lequel nous avons déjà dédié un bout d'émission l'année dernière dans Ethno Vibro. Nous nous retrouvons le 11 mars pour deux rendez-vous. Le prochain rendez-vous du Bistrot des Ethnologues sera également organisé à La Tendresse de Montpellier à 20h le 11 mars. Donc, vous pourrez nous retrouver pour écouter l'anthropologue Bénédicte Bonzi au sujet de son ouvrage La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires. Cette séance aura lieu en partenariat avec la Caisse alimentaire commune de Montpellier, l'occasion de découvrir ce projet expérimental et militant et le master d'anthropologie de l'université Paul Valéry. Nous nous retrouverons ce même jour, le 11 mars, juste avant le Bistrot des Ethnologues, à 17h, pour une émission toute spéciale, comme d'habitude, qui restituera notre rencontre avec Charles Stepanov au sujet de son ouvrage Attachement, rencontre que j'ai eu la chance d'animer à l'Agora des Savoirs le 5 février dernier. D'ici là, bonnes ondes à tous et à toutes, bonnes vibrettes, bon carnaval.
Quem manda são as heroínas.